qu'avec Anem. Bonjour, merci d'écouter ce quatrième volume de KVK Anem. Avant de vous présenter mes invités, nous allons faire un petit sommaire pour une fois, car nous parlerons des disques de Rainer Trost chez Naxos, de René Fleming chez Decca et de Edda Moser chez EMI. Côté news, nous parlerons de l'Adopi, la loi mise sur pied par le gouvernement Fillon afin d'enrayer les téléchargements illicites. Nous parlerons aussi de la retraite de Brinterfeld, de la première Lucia au Met de Diana Tamrau, de Nabucco au Stade de France qui a mis en branle le Mehdi Madavi qui était tous les soirs, de la Sonnambula de Cecilia Bartoli qui sort incessamment sous peu, et de l'Armide de Lully au Théâtre des Champs-Élysées qui aura lieu ce soir. Autour de cette magnifique table en acajou, nous retrouvons, comme à chaque numéro, Jean-Philippe Thiellet de Forum Opéra. Bonjour Jean-Philippe.
Bonjour à tous.
Mehdi Madavi d'AltaMusica.com. Bonjour Mehdi.
Bonjour.
Et Antoine Brunetto de Forum Opéra.
Bonjour.
Merci Antoine Brunetto qui remplace Sylvain Faure qui aurait dû être des nôtres et qui malheureusement est retenu à la prison de la santé où il purge une légère peine de prison pour attentat à la pudeur, lequel a été honteusement monté en épingle par une petite fille de 4 ans, la petite coquine. Alors, les suites maintenant, c'est une nouvelle rubrique. Bonjour Sylvain, si tu nous écoutes. Alors les suites, ce sont les suites liées aux articles de Forum Opéra et de nos podcasts. Alors aujourd'hui, nous recevons une lettre de Dario qui nous écrit d'Italie pour féliciter Hélène Mante à propos de son article. Exactement. Donc Dario félicite Hélène Mante à propos de son article sur le dernier disque d'Erwin Schrott. Il dit en substance: quand j'ai connu Erwin, il pesait 20 kilos de plus mais chantait déjà magnifiquement. D'ailleurs, Vecchia Zimara en italien veut dire femme de petite vertu. Bravo à Hélène pour avoir dénoncé la supercherie physique que représente Erwin Schrott. Voilà, on remercie Dario pour cette contribution essentielle au débat. Et sur le forum, par contre, un certain Don Ramiro s'indigne de cette phrase tirée de l'édito de Sylvain Faure. Merci Jean-Philippe. Donc la phrase de Sylvain Faure dans son édito, entre brackets: il vaut mieux une stranière à chanter correctement par la Cioffi qu'une traviata hurlée par la même. Don Ramiro d'ajouter que la Cioffi ne hurle jamais. Un avis Jean-Philippe?
Non.
Non. Antoine?
Pour l'avoir entendu cet été à Pesaro, elle n'hurlait pas beaucoup, on l'entendait, voire pas beaucoup. Donc bon, je ne suis pas complètement d'accord, enfin, je ne sais pas où il l'a entendu hurler en tout cas.
Elle hurle en silence.
C'est bien de hurler en silence. Alors, on va s'attaquer donc à Rainer Trost. Rainer Trost est passé en 10 ans du statut de jeune espoir du chant mozartien à celui de vieil espoir du chant mozartien. Sans vraiment être jamais parvenu à se hisser au sommet de la pyramide des acrobates de la glotte, le bon Rainer n'emmène pas moins une honorable carrière avec quelques grands succès comme son Ferrando pour la réouverture du Palais Garnier et son enregistrement du rôle-titre de la Clemenza di Tito chez Deutsche Grammophon avec Charles McCarras. On le retrouve ici dans un enregistrement monographique de Lieder de Schubert, tournant autour de poètes tels que Meyerhofer ou Skletschklecklercha. Nous écoutons un lead que je prie les germanophones de pardonner ma prononciation. Il s'agit de Herrn Josef Spaun, Assessor in Linz. Il s'agit du Deutsch 749.
Und nimmer schreibst du, bleibest uns verloren, ein Star verschwunden nun für ewige Zeit. Vielleicht kein neue Freund du erkennen, warst du Assessor denn am Tisch so breit, woran beim Aktenstoß seufzt Langeweile, um abzusterben aller Freudigkeit. Aller Freudigkeit. Doch nein, nur wir sind's, nur uns. schweigen, dies verstummen und vergessen. Armut und Not, selbst an der kleinsten Zeile, für jeden bist du schriftkarg nicht gesessen, für manchen kamen Briefe angeflogen, und nach der Helle hast du sie gemessen, doch uns verwehr, hast du dein Herz entzogen.
Voilà, c'était Herrn Josef Spaun, Assessor in Linz, Deutsch 749, interprété par le beau Rainer Trost, avec au piano le tout aussi beau Ulrich Eisenloher. Voilà, c'est un C'est un Deutsch disque Naxos. Alors je me tourne vers Mehdi. Mehdi, qu'as-tu pensé de ce magnifique disque ?
Rainer Trost est un chanteur que j'apprécie, que nous avons eu l'occasion d'entendre à Paris après son Ferrando. Dans les bassarides de Hansen notamment, où il apparaissait torse nu, ce qui n'était pas désagréable à regarder.
Et dans le Don Giovanni de Pitoiset, si j'ai bonne mémoire.
Peut-être, je ne m'en souviens pas, mais aussi en flamand, dans Capriccio de Strauss à l'Opéra Garnier. C'est un très bon chanteur, Rainer Trost. Le timbre est beau. Mais la voix me semble, en tout cas dans ses leaders, un peu limitée en termes de couleur, de malléabilité de l'ambitus aussi. C'est-à-dire que l'émission est assez régulière Et on aimerait de temps en temps, pour donner un peu plus d'expression grave,
de personnalité même,
un peu plus d'ouverture à l'aigu, qu'il sorte de ce côté un peu scolaire de l'émission. Alors tout est très musical, il n'y a pas grand-chose à reprocher. Le programme est fort beau, il y a même quelques raretés.
Mais dans ce lead qui dure quasiment 18 minutes.
Notamment, et puis celui
Einsamkeit, qui veut dire solitude.
Celui que tu viens de passer, qui épingle un peu l'opéra italien et ses excès.
Dans la tessiture est meurtrière. Hein.
Exactement. Voilà, bon, on écoute ça sans déplaisir, mais enfin, on n'est pas non plus fasciné par l'art du chanteur. C'est bien fait, proprement. Voilà.
Antoine.
Moi, j'ai eu l'impression qu'il n'était pas vraiment aidé par son pianiste. Alors déjà, je trouve qu'au niveau du son, le piano est vraiment mis en avant. Et je trouve que le jeu pianistique est parfois un peu asséné. Donc c'est pas forcément, ça n'aide pas beaucoup peut-être le chanteur à être expressif. Sinon, au niveau du timbre, moi, je trouve que justement, il a un timbre un peu assez mal. Donc j'aime assez. Je ne suis pas un spécialiste du lead, donc j'en dirai pas beaucoup plus. Mais bon, j'ai bien aimé, j'ai apprécié l'écoute de ce disque. Donc ça ne doit pas être si désagréable que ça.
Si je peux ajouter quelque chose. La réserve pour les non-germanophones, c'est qu'il n'y a pas les textes ni leurs traductions. Et que la traduction n'est pas encore disponible sur le site de Naxos.
Alors ici, je lis sur le magnifique disque de Naxos, qui, comme d'habitude, a soigné la présentation, hein. C'est vraiment un très beau disque, graphiquement parlant, avec un magnifique portrait de Mayrhofer.
Ah, je croyais que c'était Rainer Trost.
Non, c'est Mayrhofer.
Ah, pardon.
Et je me demande si à l'intérieur, il n'y a pas une photo de... Ah non, il n'y a pas de photo de Rainer Trost.
Si, il y a une photographie de Rainer Trost.
Je suis sûr qu'il y a une photo de...
Yeah.
Ah, en effet, voilà. Il y a une photo de Rainer Trost, ainsi que de Ulrich Eisenlohr.
Eisenlohr.
Sur le disque, il y a donc marqué... que les textes chantés en anglais peuvent être trouvés sur www.naxos.com/libretti/557567 et le numéro complémentaire sera le 8. Donc, Mehdi, tu as investigué ?
J'ai investigué, les textes ne sont pas encore disponibles et pour les non-anglophones...
Ont un Naxos, donc. Voilà. Ont aussi un Naxos à qui Forum Opéra avait demandé une photo haute définition de Rainer Trost, lesquels nous ont répondu que cela n'existait pas. Pauvre Rainer Trost, donc s'il cherche un photographe, nous pourrons lui en fournir un. Jean-Philippe, tu n'as pas encore parlé, je me tourne donc vers toi.
Alors, je suis d'accord avec ce qu'ont dit les collègues. Rainer Trost, c'est un peu la génération des ténors mozartiens avec une jolie voix, type Piotr Bekchala, qui sont bons sur scène, etc. Et je suis d'accord aussi pour dire que donc ce disque est intéressant parce que c'est pas la tarte à la crème habituelle des leaders que l'on connaît, mais ça manque pas mal de personnalité. Et ça explique d'ailleurs que le piano soit peut-être mis en avant, puisque manifestement le piano a plus de personnalité que le ténor. En tout cas, c'est ce que j'ai trouvé.
Je te trouve un peu sévère.
Alors, c'est très bien chanté. Der Jüngling auf dem Hügel, c'est très beau. L'extrait qu'on vient d'entendre avec l'aigu pétaradant, c'est bien. Il y a quelques petites tensions quand même dans Des Sängers Haben, par exemple. Voilà, quoi. C'est pas un disque bouleversifiant. Il a un peu tendance à rentrer par une oreille et à sortir par l'autre, si j'ose dire.
Bon, pour le prix, c'est une bonne entrée en matière.
C'est-à-dire qu'on dit toujours ça avec Naxos.
plutôt que de s'acheter l'intégrale Fischer Discount pour avoir quelques raretés.
Ah oui, c'est un baryton, c'est pas un ténor.
Mais évidemment,
le débat est ouvert. Hein. Tout le
pour
monde
avoir
dit...
ces raretés, on accède à des raretés.
C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas que Naxos, grâce à ses prix abordables, soit freiné de faire des disques remarquables. Parce qu'il vaut mieux faire un disque remarquable pas cher qu'un disque moyen pas cher.
Justement, en parlant de ça, on peut évoquer la collection Rossini chez Naxos qui regroupe des merveilles mais aussi des horreurs absolues.
Exactement.
Je conseille tous les gens qui détestent Rossini d'écouter le Contori avec que des chanteurs anglais, ils seront ravis du massacre. Hein.
Par contre, à l'inverse, on trouve de Joyce Di Donato dans
La Donna della
Donna. Et puis il y a quand même un beau Tancredi avec
Eva Podlesch.
Eva Podlesch. On peut peut-être faire une petite parenthèse. J'espérais que Sylvain soit là. Malheureusement, Voilà.
Je n'en suis que le piètre remplaçant.
Voilà. Non, non, mais donc Sylvain, qui est le spécialiste du lead, j'avais envie d'évoquer, mais je suis sûr que vous le remplacez très bien, la tradition des ténors mozartiens dans le lead. Alors, il y a évidemment Fritz Wunderlich, Anton Dermota, etc. Alors, vous trouvez donc que le pauvre Rainer ne s'aligne pas sur ses dignes prédécesseurs. On peut peut-être évoquer ces grands mozartiens qui ont fait les grandes heures du lead.
Bah, le baryton. Le baritonovore que je suis, lorsqu'il s'aventure dans les terres inconnues des voix de ténor, quand on tombe sur Wunderlich, on peut être que saisi parce qu'il y a un tel équilibre entre la beauté absolument géniale de la voix, la spontanéité, le naturel, que ça soit dans Schumann ou dans Schubert. Donc Wunderlich est absolument insurpassable. Et là, on est quand même quelques divisions en dessous. Mais enfin, ça doit être agaçant. Si Rainer Trost et Ulrich Eisenlohr nous écoutent, évidemment, ils vont être un peu énervés qu'on leur envoie toujours Papy Wunderlich, qui nous repose en paix d'ailleurs.
Et Peter Schreier.
Exactement. Donc, bon. Mais on ne peut pas comparer ce qui ne l'est pas.
Mehdi.
Comparable.
Non, toi qui es un ténor d'ailleurs.
Parmi les grands interprètes de lead, parmi les grands interprètes de lead d'aujourd'hui chez les ténors, il y a Christophe Prégardien, mais qui n'est pas à proprement parler un ténor mozartien.
Et ce gros garçon là avec les lunettes, comment il s'appelle?
Luciano Pavarotti, il est mort. Hein.
Non, non, il n'avait pas de lunettes d'ailleurs, il portait des lentilles de contact. Qui est un peu une tête de crapaud, mais qui est très sympathique par ailleurs. Werner Gura.
Ah, c'est très bon.
Ah oui, il y a des bonnes choses. Il y a des très bonnes choses. Voilà. Van Gezang, etc. Ouais. C'est pas mal.
Puis Nathalie Stutzmann aussi.
Qui n'est pas forcément ténor, mais.
Qui en partage la tessiture. Alors nous passons aux news. Alors les news, elles ne sont pas très chaudes. Hein. Je regrette que pour l'instant, il y ait peu de gens qui meurent.
Il y a des nouvelles de Nicolas Joël qu'on peut donner.
Voilà, attends, deux secondes. Hein, parce que c'est pas parce que je parle de gens qui meurent que tu dois tout de suite enchaîner sur Nicolas Joël qui va très bien. Alors, c'est vrai qu'il y a un an, ça tombait comme des mouches. Hein. On a su Beverly Sills, Régine Crespin. Voilà, on ne savait plus quoi faire dans le registre des nécrologies. Là, plus personne ne meurt. Bah, quelque part, tant mieux pour les intéressés, tant pis pour les journalistes féroces que nous sommes. On peut quand même parler, comme le disait Jean-Philippe, de...
Nicolas Joël.
Voilà.
Nicolas Joël, dont on a appris qu'il allait mieux et qu'il... Il était toujours en maison de rééducation et qu'il participait à la mise en scène, au bouclage de la mise en scène des productions dans lesquelles il était engagé par vidéoconférence. Alors on espère que Brian Large est à la webcam parce que sinon ça ne va quand même pas être simple de mettre en place une mise en scène depuis un lit de douleur. Mais voilà, on espère aussi que la préparation des saisons qui viennent à l'Opéra National de Paris n'est pas trop perturbée par...
Alors un petit mot justement
sur
la convalescence de Nicolas Joël. Christophe Rizou, notre rédacteur en chef, a très officiellement envoyé un email au Capitole de Toulouse pour prendre officiellement toujours des nouvelles de Nicolas Joël. Il lui a été répondu qu'aucun commentaire ne serait fait, que l'état de Nicolas Joël était stationnaire et qu'il allait de mieux en mieux.
Bah, il suffit de lire l'AFP, une dépêche de l'AFP d'avant-hier, je crois, pour en avoir des nouvelles. Pas voilà. Officielles, mais...
S'il va de mieux en mieux, c'est que son état n'est pas stationnaire.
C'est un peu ce que je me disais. Ça me rappelle un peu l'époque où le pauvre Ariel Sharon était sombré dans le coma. C'était il y a 2 ans, je crois, maintenant. Il y est toujours.
On le salue, d'ailleurs, s'il nous écoute.
On l'embrasse. Et ce qui était marrant... Enfin,
si on
marrant,
l'embrasse, faut pas exagérer. Quand même. Voilà. On le salue, disons.
Nous aimons beaucoup Ariel Sharon. Donc, Ariel Sharon, on apprenait jour après jour qu'un jour, il pouvait bouger le bras gauche et puis la jambe droite. Ce qui était marrant, c'est que si on le posait par terre, il pouvait faire des cercles parfaits en tournant sur lui-même. Nous espérons que son état depuis a un peu évolué. Alors toujours au rayon des news, c'est l'Adopi. Alors qu'est-ce que c'est que cette bête curieuse? Ce n'est pas la nouveauté de chez Mac. L'Adopi, c'est la loi mise en branle par le gouvernement pour mettre un terme définitif aux téléchargements illégaux. Alors en gros, le concept, Jean-Philippe, tu dis si je me trompe, vous téléchargez le dernier album de Britney Spears, le gouvernement s'en rend compte. Bah écoute,
c'est finalement répréhensible.
Le gouvernement s'en rend compte et vous envoie un mail furieux. Vous recommencez la semaine d'après avec le dernier album d'Alizé, patatras, vous recevez une lettre comminatoire par la poste, vous sommant d'arrêter sur le champ. Et si La semaine d'après, vous téléchargez le dernier album de Laurie, toujours illégalement. On vous coupe votre connexion à Internet. Alors, remarque relativement intelligente de Frédéric Martel, le journaliste de France Culture qui anime l'émission Masse Critique. Il dit oui, c'est très bien d'envoyer un email aux internautes fraudeurs, mais qui parmi les internautes utilise l'adresse email fournie par son provider? Je crois qu'autour de cette table, on a tous des emails professionnels, on a tous des emails chez Gmail ou chez Hotmail, alors le premier email passera peut-être inaperçu. Jean-Philippe, une idée sur cette loi?
Le sujet est objectivement difficile à traiter, et donc c'est facile de... Enfin, la critique est aisée, l'art est difficile, et l'art de gouverner en particulier. Donc sur ce sujet création et Internet, puisque c'est le nom un peu commercial de la loi, il y a quand même deux lignes très 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 nettes qui se dégagent. Il y a ce que j'appellerais les libertaires, c'est-à-dire les partisans du laisser-faire, du téléchargement légal ou illégal, enfin du téléchargement illégal en l'espèce, au nom des habitudes de consommation, au nom du fait que les majors se font trop d'argent, etc., etc. Puis il y a les partisans d'une ligne, les régulateurs, je les appellerai comme ça, et le projet de loi du gouvernement s'est appuyé sur le rapport de Denis Oliven, qui avait essayé de mettre autour de la table les différents tenants. Alors ce rapport, il n'a pas convaincu les partisans de la première thèse, et ce projet de loi est une cote mal taillée, c'est clair, avec la création d'une autorité administrative indépendante, l'ADOPI, haute autorité de je ne sais quoi, qui sera chargée de gérer ces emails d'alerte, et puis de couper l'accès à Internet. Donc le détail du projet, enfin j'entre pas dans le détail, mais c'est clair qu'il y a un sujet efficacité. Est-ce que ça atteindra l'objectif? J'en suis pas sûr. Il y a des sujets techniquement compliqués autour de l'adresse IP et de l'adresse email que tu indiquais. Il y a des sujets compliqués aussi en termes d'articulation avec la justice. Est-ce que l'autorité administrative, qui est une autorité administrative, pourra couper l'accès notamment aux gens qui ont un fournisseur d'accès triple play, c'est-à-dire la télé, mais aussi le téléphone? Est-ce qu'on peut couper le téléphone comme ça à des gens? Je ne suis pas sûr que techniquement ça soit réglé. Et puis de toutes les façons, c'est sûr que c'est essayer de retrouver une aiguille dans une botte de foin ou d'attraper un cachalot avec je ne sais quoi. Néanmoins, l'art est vraiment difficile. Est-ce qu'il ne faut rien faire? Je ne crois pas, parce qu'il y a quand même un problème de droit d'auteur, un problème de... Alors il faut trouver, on en parlait avec Catherine Trottmann lors du premier CIPO avant l'été, il faut trouver un nouveau modèle économique. Cette loi, c'est manifestement pas l'objectif. Le gouvernement, ça n'est pas le sien non plus, parce que c'est trop compliqué pour lui. Donc il fait cette loi, bon voilà, il faut ni excès de vilainie, ni excès d'honneur, enfin bon, on coupera.
On a un peu l'impression que c'est un mirage à ce stade-ci.
Il doit être fait quelque chose, ils ont fait ces choix-là, je suis vraiment pas sûr que ça soit les meilleurs. Néanmoins, c'est sûr qu'on peut pas laisser la situation intacte.
Mais en même temps, la thèse libertaire qui tenterait à dire que les majors se font trop d'argent est légèrement ridicule, parce qu'à ce prix-là, je peux aller demain chez Auchan et prendre toutes les bouteilles de Coca-Cola que je veux en m'appuyant sur le même principe.
Oui, moi je suis plutôt partisan d'une régulation, mais encore faut-il essayer de... Je crois pas que le rapport de Denis Oliven soit allé au bout de la logique, et il faudra sûrement recommencer. Je signale qu'il y a un très bon dossier qui se fait l'écho des deux thèses que l'on trouve sur le site de Terra Nova, qui est un think tank de gauche créé récemment, où il y a la position des libertaires et la position de Denis Oliven qui défend son bébé.
Alors, la retraite de Bryn Terfel, c'est triste. Pourquoi part-il si tôt? Dans 2 ans, Bryn Terfel s'arrêtera de chanter. Antoine, verses-tu une larme?
Oui, parce que je l'ai entendu il n'y a pas trop longtemps et il est encore en pleine possession. Donc c'est...
Mon cher Cabalier veut bien le remplacer. Ah.
Pourquoi pas, ça peut être ça.
Oui, enfin, José Vandamme a annoncé sa retraite il y a 15 ans, il chante encore. Hein.
C'est exactement ce que j'allais dire, et quand on l'entend, on se dit que, bon, pour la mémoire collective, il est mieux de se retirer quand même à temps.
Bon, regardez Rod Stewart chante encore, ça gêne personne.
Oui. Bon, ça demande peut-être pas les mêmes qualités, je ne sais pas.
D'ailleurs, je trouve que Jean-Philippe Thiellet, avec le temps, adopte petit à petit la coiffure de Rod Stewart. Donc la retraite de Bryn Terfel, Mehdi, tu t'en fous?
Un peu, je dois dire.
Jean-Philippe, toi aussi.
Il vaut mieux partir... cela dit, ça s'est quand même bien dégradé ces 5 dernières années du côté de Bryn. Hein, la tenue vocale va tout fout le camp. C'est plus tellement contrôlé. Je trouve qu'il chante quand même de plus en plus mal.
On a donc surtout l'impression, qu'il maintenant, on a surtout l'impression ans, qu'il en a rien à foutre. Il prend des vacances à qui mieux pour s'occuper de ses enfants.
Ça, c'est plutôt sympathique.
C'est très bien. Mais on a l'impression que le chant, maintenant... tant qu'il a gagné des millions. Et alors, j'ai vu que le concert d'ouverture de son festival au Pays de Galles était très intéressant car il a invité le groupe Boyzone. Alors, Mehdi, qui est un amateur de la première heure du groupe Boyzone, qu'en penses-tu ?
Je ne connais pas ces messieurs.
Alors, ils sont torse nus sur leur pochette, Mehdi.
Tout à fait.
Ah bah j'irai voir alors.
Ils ont l'habitude de casser des noix de coco avec leur tablette de chocolat, comme le fait Guillaume, notre ingénieur du son. La première Lucia de Diana Damrau au Met est un triomphe, on le lit sur Forum Opéra. Alors, est-ce que Diana Damrau va supplanter Nathalie Dessay? Merci. Alors nous allons passer au disque suivant.
Si vous coupez pas ça, je vous fais un procès.
Donc nous venons d'entendre la voix de Nathalie Dessay qui a installé un parlophone directement dans la rédaction de Forum Opéra afin de dicter ses oukases en temps réel. René Fleming chante Strauss, quelle magnifique idée. Ses quatre derniers leads, elle les grave pour la seconde fois. Et dans Forum Opéra, notre collègue et amie et évidemment rédactrice que nous admirons tous énormément, Hélène Mante, dit qu'il s'agit là de l'enregistrement le plus intègre de René Fleming. Alors, nous écoutons dans quelques instants In Abendrot, et c'est dirigé par
ce qui n'est pas le Rho du soir, hein, faut le préciser,
et qui est dirigé, merci pour cette remarque édifiante, qui est dirigé donc par Christian Tilleman. C'était In Abendrot, issu des Vier Letztelieder de Richard Strauss, interprété par Frau René Fleming, avec à la baguette le magnifique Christian Thielemann, qu'on nomme évidemment le digne successeur de Wilhelm Furtwängler, dont j'ai visité la maison et la veuve cet été, près de Vevey, en Suisse. C'est une fort belle demeure, d'ailleurs. Antoine.
Alors, René Fleming, pour moi, c'est toute une histoire parce que je l'ai découverte en 2002 au Châtelet, dans un Il Pirata de triste mémoire où c'était vraiment abominable. Le style était vraiment, vraiment très.
Jean-Philippe, t'as pas l'air d'accord.
Bon, je préférais taper sur Marcello Giordani qui était juste à côté et je trouvais ça plus facile.
Il y avait Evelino Pido pas loin aussi, je crois.
Oui, tout à fait. Il y avait Evelino
Pido. Et puis un bariton qui avait tiré son épingle du jeu.
Oui, qui était bien. Qui était tout à fait.
Chaligoulin.
Albert.
Non, c'est l'avant-centre du FC Saint-Pétersbourg.
Donc c'était Albert Chaligoulin, dont j'ai eu la chance il y a plusieurs années d'être l'agent, figure-toi, et qui pour l'instant chante.
Comme joueur de foot ou comme chanteur?
Comme avant-centre droit du FC Metz. Et pour l'instant, il chante donc dans Boris Godounov à l'Opéra d'Amsterdam. Boris Godounov étant chanté par John Tomlinson, qui lui aussi aurait peut-être dû écouter les préceptes de Bryn Terfel. Alors on a interrompu Antoine, le pauvre.
Vocalement, c'était pas si mal, mais stylistiquement, c'était vraiment abominable, avec des cris dans tous les sens. C'était vraiment. Donc, j'étais un peu fâché avec René Fleming, et je l'ai réentendu en live récemment dans Thaïs, et là, mon amour est René, on va dire.
Oh.
Voilà, et donc c'est vrai que la voix est absolument magnifique, le timbre est superbe, les aigus sont encore magnifiques, épanouis. C'est vraiment
pourtant,
une voix épanouie.
C'est une chanteuse qui n'est pas loin de la soixantaine, mine de rien.
Tout à fait, mais c'est vrai que du grave à l'aigu, c'est rond.
Est-ce que dans Thaïs, l'amateur de lyrique que je devine en toi a été ému du magnifique contre-ré sur le éternellement?
Ah, tout à fait. Non, magnifique. Tout à fait.
Et comme ces photos sont autant retouchées que celles du président de la République, on lui donne 35 ans sur ses pochettes. Hein, donc.
Je me souviens, donc justement, au Châtelet, j'avais fait un pari avec une amie qui s'appelle Lou Trémère et qui travaille sur Forum Opéra. Nous y étions ensemble. On la salue et on l'embrasse, et bien plus encore. Et elle m'a dit...
Saluons également les dom-toms.
Nous saluons les dom-toms. et donc, le pari portait sur le défi suivant. Elle allait demander un autographe à Roland Dumas, ce qu'elle a fait et obtenu. Et moi, je devais aller dire à René Fleming que je la trouvais encore plus belle en vrai que sur ses pochettes de 10. Ce que j'ai fait, l'intéressé m'a répondu, c'est bien la première fois qu'on me dit ça. Ce qui est quand même sympa de sa part.
Prochain défi, va dire ça au président de la République française.
Je peux dire ça à Roland Dumas aussi la prochaine fois. Mehdi, qui justement a de magnifiques chaussures Berluti. Oh mon Dieu, je remarque que Mehdi a des mocassins à glands. À glands. Il faut oser aujourd'hui, bravo Mehdi.
Je n'ai jamais fait partie des turiféraires de René Fleming. Je ne fais pas non plus partie de ses détracteurs. Mais j'avoue que j'ai éprouvé un immense bonheur en écoutant ce disque. Pour moi, il y a quelque chose là-dedans de la luxure, tout simplement. Je me suis noyé dans cette voix.
Elle n'est pas morte, on précise pour nos auditeurs qui pensent que c'est un éloge funèbre. Elle n'est pas morte, elle va bien.
Ça me rappelle un peu les éloges funèbres de Jacques Toubon à l'époque où le clown Achille Zavatta était décédé.
Non, simplement, René Fleming a enregistré ses quatre derniers leaders il y a 12 ans, je crois, avec Christophe Eschenbach. Il y avait d'immenses qualités, mais on a tout le parcours de la chanteuse qui résumait entre ces deux gravures. C'est-à-dire qu'on avait quelque chose de scolaire, de propre, avec une voix déjà sublime. Et puis maintenant, on a une René Fleming complètement décomplexée qui colle à cette image glamour qu'en donnent les photos, aussi retouchées soient-elles.
Les photos.
Et puis il y a, selon moi, deux immenses promesses, celles d'Ariane et d'Hélène d'Égypte, qui sont face au micro assez fascinantes, je dois dire. Plus encore que les quatre derniers leaders.
Jean-Philippe.
Oui, moi j'ai beaucoup aimé ce disque et je voudrais saluer, comme tu l'as fait, Hélène Mande, parce qu'autant elle avait écrit de belles conneries sur le disque de Juan Diego Flores et celui d'Erwin Schrott.
Hélène, si tu nous entends, à l'hospice de la dernière ligne droite, nous t'embrassons.
Son état est stationnaire d'ailleurs, Hélène Mande.
Elle bouge un pied d'ailleurs.
Ah oui? Mais là, je suis complètement d'accord avec son papier, extrêmement bien écrit, avec des formules brillantissimes. Voilà. Et puis je partage ce qu'a dit Mehdi. La voix de René Fleming colle vraiment admirablement bien à Richard Strauss dans le côté un peu éthéré, parfois décadent. Il y a quelques touches de vulgarité qui, loin de dénaturer le tableau d'ensemble, lui donne un petit piment. Donc je trouve ça très bien. Parfois elle y va quand même un peu fort sur les prononciations, sur les te finales par exemple dans le premier des derniers leaders, dans Frühling. Elle y va un peu fort. Et puis après je trouve que tout ça, enfin c'est très beau. J'ai beaucoup aimé ce disque.
Et puis contrairement à l'accompagnement d'Eschenbach ici, ça avance vraiment. Alors que Eschenbach avait tendance à figer Fleming dans sa posture de bon élève, finalement. Ici, on a quelqu'un qui la pousse, qui la soutient et qui lui fait un écrin somptueux.
René, juste le micro est très flatteur aussi parce que rien que la voix et l'orchestre sont vraiment fondus et on entend même les soupirs de René Fleming dans les introductions. C'est vraiment très 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 fin comme et donc ça donne, je pense, ça rajoute à l'attrait.
Et alors je crois que c'est dans Abendroth qu'on vient d'entendre. Elle y va à un moment, elle y va un peu fort. Il y a un glissando, un peu too much quand même.
Une espèce de tri sur, je sais plus sur quoi d'ailleurs. Elle fait une espèce de tri sur un mot qui signifie frémissement.
Oui, mais ça c'est bien choisi peut-être.
Oui, mais c'est un peu redondant finalement. C'est un peu pléonastique de faire ça.
La petite coquine. Alors c'était René Fleming chantant les Fearless Leader de Richard Strauss avec des extraits de Ariane Anaxos et de Hélène d'Égypte. Nous passons à la deuxième section des news. Alors la première, c'est évidemment ce Nabucco au Stade de France qui a fait se déplacer les foules et nos rédacteurs en premier. Jean-Philippe Thiellet, tu y allais avec ton écharpe du Paris Saint-Germain.
Le PSG.
Je t'ai vu à la télé.
Je suis marseillais, monsieur.
Oui, je sais.
Vous m'insultez.
Oui. Et d'ailleurs, le Marseille a un coach flamand. C'est formidable, ça.
Ah, Éric Guéret, c'est un type formidable dans la tradition...
belge.
Dans la tradition belge, et je salue tous les entraîneurs de football belges du monde et des dom-toms en particulier.
Oui,
et Éric Guéret, c'est formidable.
Et Raymond Gauthals.
Ah, Raymond La Science nous a fait gagner. Je rappelle à cette occasion que l'OM est le seul club français à avoir gagné.
Mais
la Ligue des Champions.
Grâce à un entraîneur belge.
Grâce à un but de Basile Boli, qui, quoique à l'UMP maintenant, était un très bon joueur de foot. Et je salue Éric Guéret, si Éric Guéret nous entend. Eh bien, j'aime Éric Guéret.
Je parierais pas cher là-dessus. Revenons au Nabucco au Stade de France. Jean-Philippe, tu n'y es pas allé.
Non, moi je vais au Stade de France pour voir des matchs de foot, pas pour entendre de l'opéra. Et je ne sais même pas qui chantait.
Antoine.
J'y suis pas allé, ou alors si on m'a reconnu, c'est pas possible, j'étais incognito. Donc...
Et Mehdi ?
Je ne vais pas au Stade de France.
Je crois franchement t'y avoir vu pour Holiday on Ice il y a 3 ans, tu étais dans les bras de Mini. Petit coquin. Alors,
qui chantait alors ?
Je sais pas.
Ah bon.
De toute façon, avec des micros, on s'en fout.
Ouais, bah, au terme de Caracalla à Rome aussi, c'est sonorisé.
Ouais, mais
pourtant,
c'est pas marrant, c'est pas marrant.
Il y a Annick Massis qui a fait une Lucci à saluer par Forum Opéra, alors même qu'au terme de Caracalla, c'est sonorisé par des espèces de gros micros qui leur mettent sur le front. La première fois, j'ai cru qu'ils avaient tous des verrues. Je me dis que c'était un...
C'est pas beau, les verrues.
Non, mais là, des grosses verrues, je me dis qu'il y avait une épidémie. Et...
C'est bizarre, sur les photos officielles, les micros apparaissent pas, je comprends pas.
C'est drôle, hein. C'est drôle.
C'est étrange. Alors, deuxième fait d'actualité, la parution imminente de la Sonnambula de Cecilia Bartoli, dont on avait pu entendre quelques extraits sur son dernier disque, Maria. Alors, cette Sonnambula avec Bartoli et Juan Diego Flores, qui fait face avec un peu d'insolence à celle parue récemment avec Nathalie Dessay et Francesco Melli chez Virgin. Qui va gagner le bras de fer, Antoine ? As-tu une idée ? Tu avais d'ailleurs chroniqué le disque de Nathalie Dessay sur Forum Opéra 1.
Non, j'avais vu...
Tu avais chroniqué le spectacle.
Chroniqué le spectacle, où j'avais dit que Francesco Melli était extraordinaire.
Et Nathalie Dessay nous avons un appel qui nous conseille de ne rien dire.
Si vous coupez ça, je fais un procès.
Voilà. Donc, Mehdi.
Oui, je suis ravi qu'il y ait une nouvelle intégrale de la Somnambule qui sorte sous peu, je pense que le match sera gagné par, d'un point de vue philologique en tout cas, par Bartoli et son équipe.
Donc Sonnambula qui paraît sur instrument d'époque.
Noté. Voilà, dans la version Malibran.
Je pense que pour gagner le match, il faudrait qu'Eric Guéret tienne la baguette. Parce que quand tu mets le goal, je dis que la Bartoli, elle est très bonne arrière-droite, mais pas avant-centre.
Voilà, donc c'était Jean-Philippe Thielet. Je vais faire venir un batteur américain dans le studio la prochaine fois pour qu'il ponctue les blagues de Jean-Philippe de petits jingles. Donc Sonnambula, donc, maintenant sérieusement, mon cher Jean-Philippe, tu es fan de la Sonnambula?
Je trouve ça admirable que, enfin, on n'a pas eu un trovatore depuis quelques décennies. Et là,
je te rappelle qu'il y en a eu un début des années 2000.
Ouais, début des années 2000. Ça fait presque une décennie.
Je récapitule. Alania avec Papano et puis Bocelli.
Ouais, non, mais je parle de
Bocelli. Et puis Muti. Donc
je parle de trouver. Oui, mais ça c'est 99. Muti.
Non.
Avec Fritoli.
L'année Verdi, c'était en 2001.
Bah, d'accord, ça fait 8 ans. Donc je récapitule. Ça fait quelques bonnes années.
On a grand besoin d'un nouveau trovatore. Attends, petit exercice comme ça à brûle pourpoint. Dis-nous un peu qui tu mettrais dans un enregistrement trovatore et si tu étais milliardaire.
Eh bien, je mettrais Lauric Sana en Conte de Luna.
Qui ça?
Lauric Sana, c'est le capitaine de l'OM. Non,
mais voilà.
Je mettrais Andrea Bocelli au vestiaire. En tout cas, mon point, c'est donc, de dire qu'on a deux somnambules.
Je suis navré de t'avoir ridiculisé comme ça, mais c'est vrai que même si on voulait faire un trovatore aujourd'hui digne d'intérêt, ce serait difficile.
C'est pas ça qui arrête les maisons de disques.
Faire une somnambula avec Dessay et avec Bartoli, ça a du sens.
Enfin, selon Détour, pour dire que c'est bien qu'il y ait deux somnambulas ou deux somnambulés en 18 mois, ça c'est formidable. Et j'achèterai, comme j'ai acheté le précédent.
Vous avez entendu tous autant que vous êtes. Le Anon Crede Amirarti ici de Maria, vous en avez pensé quoi? Prenez votre temps. Hein.
Bah, moi, j'ai trouvé ça très beau parce que je trouve que justement, on y croit et surtout, moi, j'avais bien aimé la cabalette finale. C'est ce que je mettais parce que j'ai chroniqué aussi le fameux Maria de Bartoli et j'avais l'impression d'entendre le sourire dans la voix. Vraiment, c'est tellement communicatif.
Elle est contente.
Elle est contente. Voilà. Donc, ça fait plaisir de voir qu'elle est contente.
Mehdi. Et nous sommes contents avec elle.
Voilà. Alors, l'événement avant-hier à Paris, c'était la première d'Armide de Lully. Alors, on dit que c'est avant-hier parce que ça va être publié vendredi. Mais en fait, on est mercredi, on vous cache rien. Donc, la première, c'est ce soir. Et on va pas faire comme si on l'avait déjà vu, parce que, bon, on peut dire que c'est chiant, là, on va pas se gourer de beaucoup. Mais Mehdi, cette Armide t'excite beaucoup, je suppose.
Je suis très excité, parce que c'est une mise en scène de Carsen et qu'il va forcément y avoir des hommes nus sur scène.
Eh bien non, il y a des femmes nues, mais pas d'hommes nus, je
peux te
dire.
Quelle horreur !
C'est dur, hein. Mais bon, des femmes nues, c'est bien aussi.
Ouais, j'irais peut-être, du coup.
Alors, ce qui était marrant, c'est que deux chanteurs que je connais dans la production m'ont dit qu'à la base, ils devaient chanter un duo d'amour nu et que Carsen les a fait déshabiller et qu'une fois nu, Carsen a dit « Bon, ben, on va prendre des danseurs plutôt. Hein. » C'est pas très gentil. Et donc, ils ont dû se rhabiller. C'est Andrew Tortiz et la soprano, j'oublie son nom. Probablement Diana Damrau.
Ce n'est pas Nathalie Dessay, je le précise.
L'avocat de Nathalie Dessay vient de nous envoyer un fax pour préciser que ce n'était pas elle.
Armide, c'est une production très, très prometteuse. William Christie, une distribution avec un tas de spécialistes, Paul Agnew, Stéphanie Doustrac, qui sera sans doute super.
Le magnifique Marc Callan.
Je ne sais pas.
Ah, Marc Callan, très beau chanteur.
Qui était à Lyon.
Il faisait l'amiral qui a son costume craqué. On voyait d'ailleurs son dos, le pauvre Marc.
C'est très prometteur et c'est bien qu'enfin le spectre d'Attis soit un peu dissipé et qu'on ose remonter Lully à Paris.
On l'avait fait l'année dernière de manière légèrement... non, mais très enthousiasmante, tout compte fait, avec ce truc-là, avec le roi de France et tout ça.
Thésée, c'était très mauvais.
Ah, mais non, c'était très bien.
C'était très mauvais.
Qu'est-ce qui était très mauvais?
C'était prétentieux, c'était...
Bon voilà, donc Armide de Lully ce soir au Théâtre des Champs-Élysées, il y a deux jours si vous...
Thésée ne sera pas nu, il vient d'être habillé, mais...
Oh, bravo Antoine,
C'est vous.
C'est un festival. La prochaine fois, Guillaume, fais-moi penser à amener dans mes valises l'indicatif des grosses têtes. Alors... Le dernier disque, c'est Etta Moser, au fond, c'est un peu la Cassius Clay des sopranos colorato. Cassius Clay, c'était Mohamed Ali, hein, c'est ça. Voilà, donc en deux ou trois contruites, elle vous met un public KO. Alors, chanteuse fulgurante qui a disparu aussi vite qu'elle est apparue, elle enseigne aujourd'hui dans un conservatoire régional du fin fond de la Bavière. Mais que retenir d'elle à part qu'elle aimait bien le strudel? Nous écoutons « Au Zitre Nicht ».
Zitre nicht, meine Liebe, so.
C'était donc aux Zitronicht, chanté par Reda Moser, sur cette compilation d'airs virtuoses de Mozart, Mozart Virtuosen Arien zum Gitarre. Ça, c'était un petit clin d'œil à Peter Schreier. Mehdi, je t'ai vu fulminer pendant mon introduction.
Oui, parce que la carrière d'Eda Moser a quand même duré une trentaine d'années. Alors évidemment, elle a été à son zénith vocal très peu de temps. Ce disque est très spectaculaire. Vous parliez de la notion de spectaculaire dans le dernier numéro de Café Canem.
Tu l'as aimé ?
Beaucoup.
Merci.
Voilà, là c'est la définition du spectaculaire. Popoli di Tessalia, c'est absolument renversant. Bon, le contresol est en voix de sifflet, on s'en contentera, hein, comme ça, avec toute la véhémence qu'il y a dans le récitatif et ailleurs. C'est absolument extraordinaire. C'est une voix très singulière, une émission très singulière. C'est un vrai phénomène vocal. Je pense que la dernière plage, en la confrontant à Maddy Mesplé, résume bien la situation.
Oui, donc on peut dire que la dernière plage, il y a un duo, le duo du Schauspiel Director, entre les deux prima donne qui veulent toutes les deux être la première chanteuse. Ça s'appelle d'ailleurs Ich bin der Erste Sängerin.
Die Erste Sängerin.
Mais je t'emmerde.
Et je tiens à attirer l'attention de nos auditeurs sur le fait que Eda Moser n'est pas seulement spectaculaire, puisqu'elle a enregistré beaucoup de leaders. Et qu'elle a gravé pour moi la plus belle version de Von Ewiger Liebe de Brahms, que l'on ne trouve plus malheureusement.
Alors on peut souhaiter, avec un tout petit peu d'anticipation, le 70e anniversaire de Eda Moser, qui est né un 27 octobre, donc dans juste quelques jours. Donc si Eda Moser nous entend,
nous la saluons en dialecte...
Un Geburtstag.
Gouskot.
Kruskot.
Kruskot.
En roulant les airs. Bah, puisque j'ai la parole, je la garde.
Bien sûr.
Et effectivement, le spectaculaire de Juan Diego Flores, en fait, s'appliquerait bien mieux à ce disque-là. Je partage tout ce qu'a dit Mehdi. Elle attaque vraiment fort. Hein. Et d'ailleurs, enfin, dans le répertoire, elle a un ambitus tellement grand qu'on lui fait chanter des choses qui lui vont moins bien que d'autres. Parce que moi, j'ai toujours trouvé qu'elle était plus une Donna Ann qu'une reine de la nuit, et que les coloratours lui posent parfois des petites difficultés qu'elle rattrape complètement grâce à son tempérament, son énergie. Mais elle est bien meilleure dans ce répertoire-là. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Eda Moser, ruez-vous sur cette compilation ou sur d'autres équivalentes, puisque chez EMI, il existe d'autres compilations à peu près équivalentes, en mélangeant les airs d'opéra et les airs de concert, parce que c'est dans les airs de concert, et notamment dans le Popoli di Tessalia que Mehdi évoquait, qu'elle est complètement ahurissante. Alors les deux contre-sols sont tirés un peu, même le deuxième m'a fait glousser, donc pour dire, mais cela dit, l'ensemble est proprement ahurissant, et cet air est ahurissant, et je sais pas, alors j'ai pas eu le temps de vérifier si les rivales ou pseudo-rivales, plutôt coloratour d'ailleurs, qui ont enregistré des disques d'air de concert ces derniers temps avait gravé cet air-là. J'ai pas eu le temps de vérifier, j'en suis pas complètement certain. Et si la réponse est non, ben c'est complètement justifié. Si la réponse est oui, ben il faudrait comparer.
Comparons. Antoine.
Moi, je trouve la voix bluffante, mais je n'aime pas forcément. En fait, justement, je trouve que c'est un chant qui est tout dans l'énergie. Et alors, ça se libère magnifiquement dans les suraigus, c'est impressionnant. Mais par ailleurs, je trouve qu'il n'y a pas de legato. Enfin, quand on entend le deuxième air de La Reine de la Nuit, en fait, c'est tout. Le chant est toujours haché. On n'a jamais le.
Le récitatif de Non Midir est vraiment magnifique, en revanche.
Oui. Et puis, ce que je voulais dire aussi sur cette compilation-là, c'est que, justement, je pense, alors je n'ai pas les dates sous les yeux, mais je pense que c'est donc enregistré à des moments différents. Et alors, je ne sais plus quel est un des derniers airs du récital, où le tri est très proche du chevrotement. Enfin bon, on voit que la voix est déjà un peu usée à ce moment-là. Alors. Mais sinon, c'est vrai que c'est clairement bluffant au niveau... c'est une voix qui est assez imposante, mais qui est capable de sortir des sons ahurissants.
Merci Antoine, on termine ce podcast qui, comme d'habitude, est passé tellement vite par un petit tour de table, des coups de cœur et cette fois aussi des coups de dégoût. Alors, nos invités vont dire un livre, un film ou un spectacle, un ballet qu'ils ont aimé. Et,
un ballet.
Oui.
Un ballet.
Pour le PD.
Tu nous as vu, non,
et ensuite, on fera un second tour de table avec ceux qu'ils n'ont pas aimé, ce qui généralement est un peu plus marrant. À tout seigneur, tout honneur, je commence par Mehdi. D'abord, Mehdi, c'était bien le Liban ?
L'Iran.
Ah oui, pardon. C'est là où il y avait le chat.
C'est ça.
Voilà, alors, on t'écoute.
Je suis en train, en ce moment, de lire La recherche du temps perdu. Donc, je n'ai pas beaucoup de temps pour lire autre chose.
C'est bien.
Ce qui est bien, c'est que ça vaudra pour les 143 prochains Carré Canem.
Est-ce que c'est aussi bien que la trilogie Millennium ?
Écoutez, ça me plaît beaucoup. Je suis complètement immergé dans cet univers et j'y prends un plaisir infini.
Tu me fais
infini.
Un peu penser à Charlus, d'ailleurs. Sympa.
Merci.
Je t'en prie. Antoine ?
Qu'est-ce que... Pas de... Ah si, un livre que j'ai... C'est un livre qui n'est pas sorti récemment. C'est Bravoure d'Emmanuel Carrère. Apparemment, c'est un de ses premiers bouquins. Et c'est assez sympa. On retrouve complètement le côté quotidien qui bascule bizarrement dans le fantastique sans prévenir. Donc j'ai beaucoup aimé. Et puis sinon, au cinéma, j'ai vu le week-end dernier Cliente de Balasco, qui est plutôt sympa. J'aime bien le regard qu'elle a sur les personnages. J'ai vraiment passé un très bon moment.
Donc voilà, Cliente, qui est l'histoire d'une bourgeoise présentatrice du téléachat qui s'acoquine d'escort boy, Antoine ayant lui-même été escort boy dans sa jeunesse.
Merci Camille de révéler.
De Montserrat Caballé.
Il fait très bien, Antoine.
Emmanuel Carrère, qui avait par ailleurs écrit La Classe de Neige, si je me souviens bien, qui est une histoire de petit garçon traumatisé par un infâme pédophile. On salue donc Sylvain au passage. Jean-Philippe.
Lors du dernier KV Canem, on était à 48 heures avant la sortie du nouveau David Lodge, donc je suis allé l'acheter, je l'ai lu, et je vous le conseille. Autant le précédent, qui s'appelait L'Auteur, qui était une biographie
de Henry James,
m'avait laissé froid. Et le précédent du précédent était excessivement cynique, qui devait être Pensée secrète, je crois. Alors que là, avec La vie en sourdine, qui est un clin d'œil pour nous, en tout cas aux amateurs de musique, parce que David Lodge, lui, il ne parle pas du tout de musique, mais La vie en sourdine, on retrouve le David Lodge à la fois léger et profond, drôle, et ça se lit vraiment très très bien. Donc j'ai beaucoup aimé La vie en sourdine et je vous le recommande.
Moi, j'en profite pour vous recommander un film qui s'appelle Happy Go Lucky, qui est le dernier film de Mike Lee, un cinéaste britannique généralement extrêmement sinistre. C'est un peu les frères d'Ardenne britanniques. Sauf que là, il fait un film sur l'optimisme forcené d'une jeune fille à qui rien n'en enlève son sourire. Et je trouve qu'on sort de ce film frais comme un gardon et gargarisé par la jouvence de l'abbé Souris.
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je trouve que les gens heureux comme ça, c'est crispant, c'est affreux.
Voilà, c'est parce que tu es un sinistre fonctionnaire du ministère des Finances. Donc, on fait le tour de table, mais cette fois en sens inverse, des choses qu'on a détestées. Jean-Philippe, qu'as-tu détesté récemment, à part ta coiffure ?
Je n'aime pas du tout les erreurs d'arbitrage. Il y en a assez des erreurs d'arbitrage et il faut un arbitrage vidéo dans le football moderne. Non, sinon, je n'ai pas du tout aimé Faisons un rêve, qui est la pièce de Sacha Guitry au théâtre Édouard VII avec Clotilde Courau.
Et Marc Mercadier.
Et Pierre Arditi. Le texte n'est pas terrible, donc les acteurs font ce qu'ils peuvent, mais n'y allez pas.
Je voulais saluer au passage Marc Mercadier, qui est mon ami Facebook depuis 15 jours.
Je vous conseille en revanche le film Faisons un rêve avec Sacha Guitry lui-même. Jacqueline de Lubac, Rému, qui est une petite merveille.
Et c'est tout ce que tu nous conseilles ? Conseille-nous une deuxième chose, parce que là, c'est un peu une réaction.
Conseiller La recherche du temps perdu, tu veux pas qu'il...
Alors, qu'est-ce que tu n'as pas aimé, Mehdi ?
Je suis très gêné par l'odeur de peinture qui m'environne en ce moment dans mon appartement.
Oh mon Dieu. Ah, Antoine ?
Moi, c'est juste une réaction, un spectacle qui n'est pas tout récent. C'est le Onegin qui est passé à l'Opéra de Paris. Alors, c'est assez amusant parce que les critiques étaient...
Pas d'opéra.
Pas d'opéra.
On a dit pas d'opéra.
Fallait prévenir.
On prévient.
Nous ne sommes pas des monomaniaques.
Non, justement, c'est pour montrer notre ouverture d'esprit. Moi, je déconseille l'initiative que j'ai eue pour l'instant, qui est de lire tous les Goncourt à rebours. Alors, j'ai commencé évidemment par Alabama Song, en passant par Les Bienveillantes, Trois jours chez ma mère. J'avais parlé la dernière fois du silence des Scorta de Laurent Godet, qui a été qualifié par Jérôme Garcin de Guillaume Musso se prenant pour Dante, ce qui va très bien. Et maintenant, je voulais donc déconseiller encore deux Goncourt, qui est La maîtresse de Brecht, de Jacques-Pierre Hamet, qui est absolument indigent, et Les ombres errantes de Pascal Quignard, qui pour le coup est un livre magnifique, mais dont j'ai pas compris un traître mot.
Souvent le cas avec Pascal
Voilà, j'ai lu ce livre qui est court, hein, donc ça va, et au fond, je me suis dit à la fin, mais tu dois être en demeuré, car tu n'en as pas compris un mot, et j'ai ensuite appelé Sylvain Faure, qui m'a dit, mais non, c'est tout à fait normal.
C'est parce que tu es belge.
C'est parce que je suis belge, voilà, donc évitons les Goncourt, et je vais m'attaquer au Goncourt 2000 bientôt, et j'espère ressortir plus gai. Mais ma conclusion pour l'instant, c'est que le Goncourt n'a rien à envier au prix des lectrices de femmes d'aujourd'hui. Alors, dernier petit coup de cœur de ma part, j'en profite parce qu'Antoine a été bref, je vous conseille l'album En Vivo de Gabriel Rios, qui est un rocker du Paraguay et qui est très marrant. Il reprend d'ailleurs une mélodie issue du Livre de la Jungle, I Want to Be Like You, qui est la chanson du gros singe qui veut le feu, hein. Donc, Mehdi, tu te souviens, toi qui ressembles si étrangement à Mowgli, de cette chanson. Amis de Forum Opéra et de Cobuz, merci de nous avoir écoutés. Je remercie aussi Jean-Philippe Thiellet, Antoine Brunetto, Mehdi Mahdavi et Guillaume Robert d'avoir aidé à la réalisation de cette émission. Je vous dis à dans un mois et peut-être bientôt, qui sait, un prochain Fortissimo et un prochain Sipuo si les animateurs respectifs de cette émission décident de sortir de leur léthargie scandaleuse. Au revoir.